Laudetur Jesus Christus.
Le pape François, inquiet de la politique migratoire de Donald Trump, il l'écrit dans une lettre adressée aux évêques américains. Il exhorte aussi les catholiques à ne pas céder aux récits discriminants, un message parfaitement reçu par l'archevêque de Chicago, le cardinal Supich. Nous l'entendrons dans ce journal. L'Allemagne en pleine campagne électorale pour les législatives anticipées. Olaf Scholz, le chancelier sortant, mal en point dans les sondages, a peut-être prononcé ce matin au Bundestag son dernier discours en tant que chef du gouvernement. La Syrie n'est pas encore totalement pacifiée. Des combats se poursuivent dans le nord du pays entre les forces soutenues par la Turquie, proches du nouveau pouvoir, et les troupes kurdes. Un reportage dans la ville de Manbij.
Radio Vatican, le journal, Xavier Sartre.
Bonsoir. L'émigration, cheval de bataille du pape François, est au centre d'une longue lettre qu'il a adressée aujourd'hui aux évêques américains. Le souverain pontife y exprime son inquiétude quant à la politique migratoire de la nouvelle administration américaine qui, selon lui, porte atteinte à la dignité humaine. Dans ce courrier, François réaffirme ainsi les principes d'un état de droit et exhorte les catholiques à ne pas céder aux récits discriminants. Les détails avec Olivier Bonnel.
Les mots se veulent graves à la hauteur de la crise migratoire que vivent actuellement les États-Unis, où les expulsions en masse d'étrangers, conformément aux promesses du président Trump, ont commencé, notamment sur la base de Guantanamo. Le pape rappelle d'abord que le phénomène migratoire s'enracine dans l'Écriture sainte, notamment dans le livre de l'Exode, et rappelle aussi que la Sainte Famille a vécu l'exil. Mais François se fait surtout l'avocat de la dignité humaine, bafouée selon lui par ces expulsions de migrants. Évoquant une crise majeure, il ne cache pas ainsi sa préoccupation devant ce qu'il nomme la mise en place d'un programme de déportation massive, tout en reconnaissant le droit d'une nation de se protéger des crimes commis. Le pape rappelle ainsi à travers ce courrier les fondements d'un état de droit authentique, un développement qui ne peut se faire par le privilège des uns et le sacrifice des autres. Un état de droit, écrit-il encore, se vérifie précisément dans le traitement digne que méritent toutes les personnes, en particulier les plus pauvres et les plus marginalisés. Dans cette lettre, François met en garde aussi contre une société de la loi du plus fort, exhorte catholiques et même au-delà à ne pas céder aux récits qui discriminent et causent des souffrances inutiles. Le Saint-Père remercie enfin les évêques américains pour leur travail précieux jusqu'ici auprès des personnes migrantes, en annonçant Jésus-Christ et en promouvant les droits humains fondamentaux.
Olivier Bonnel, et la Maison-Blanche n'a pas tardé à réagir. Le principal conseiller de Donald Trump pour la politique migratoire, Tom Homan, a invité le pape à se concentrer sur l'Église catholique et à laisser le gouvernement américain s'occuper des frontières. En attendant, cette lettre du pape a été appréciée par les évêques américains. En témoigne cette réaction du cardinal Blaise Supich, l'archevêque de Chicago.
J'apprécie profondément le témoignage prophétique du pape François. Le Saint-Père a clairement identifié pour les évêques et l'Église des États-Unis la protection et la défense de la dignité des migrants comme la première urgence du moment. Je lui suis reconnaissant d'avoir encouragé les évêques qui ont critiqué les déportations massives et aveugles et la criminalisation des immigrés, ainsi que d'avoir invité tous les évêques à marcher ensemble et à défendre la dignité humaine des immigrés dans notre pays. Je prends particulièrement au sérieux la demande d'aider les catholiques à développer une conscience bien formée, de sorte qu'en tant que citoyen fidèle, chacun d'entre nous puisse porter un jugement critique et exprimer son désaccord avec des politiques qui sont faussement construites sur la base de la force et des distorsions, plutôt que sur la vérité de l'égale dignité de chaque être humain.
Des propos recueillis par Déborah Loubov de la rédaction anglophone de Radio Vatican. Toujours en matière migratoire, l'Espagne, elle, va régulariser les migrants en situation irrégulière qui ont été affectés par les inondations meurtrières du 29 octobre dans la région de Valence. Ils devraient ainsi obtenir un titre de séjour d'un an, durée qui sera de 5 pour les proches des personnes décédées durant les intempéries. Hier, Caritas Internationalis dénonçait sans embâge la décision de Donald Trump de couper massivement dans l'aide au développement, présidant des conséquences négatives pour nombre d'ONG à travers le monde. Et bien aujourd'hui, l'organisation norvégienne Norsk Folkehjelp, spécialisée dans le déminage, va licencier 1700 employés dans 12 pays, soit plus de la moitié de ses effectifs. 40% de son budget vient en effet directement de l'agence américaine USAID. Les États-Unis de Donald Trump se distinguent également, comme notamment le Royaume-Uni, dans le domaine de l'intelligence artificielle. Washington et Londres n'ont pas signé en effet la déclaration pour une IA ouverte, inclusive, éthique, publiée à l'issue du sommet de Paris aujourd'hui. Au contraire de Paris, New Delhi et Pékin qui souhaitent une coordination renforcée de la gouvernance de l'IA. Ce matin, lors des dernières interventions de ce sommet, le message du pape François pour le sommet donc a été lu dans ce texte. Le Saint-Père souhaite que chaque nation puisse trouver dans l'IA un instrument de développement et de lutte contre la pauvreté, d'autre part de protection des cultures et des langues locales. Plus de précisions sur ce message sur notre site internet. À 12 jours des élections législatives allemandes, les divers chefs de parti se sont adressés ce matin à leurs collègues députés du Bundestag. Parmi eux, le chancelier Olaf Scholz, candidat à sa succession pour le parti social-démocrate, mais en mauvaise posture selon les sondages. Il y est largement distancé par les chrétiens démocrates et par l'extrême droite. Olaf Scholz tenait peut-être ainsi son dernier discours au sein du Bundestag en tant que chancelier. À Berlin, Delphine Nerbollier.
Olaf Scholz n'a plus rien à perdre. À l'approche des élections, les divers sondages se suivent et se ressemblent. Son parti, le SPD, n'arrive que troisième dans les intentions de vote. Si la tendance devait se confirmer dans les urnes, le 23 février prochain, Olaf Scholz ne sera bientôt plus chancelier. C'est donc dans ce contexte que le candidat social-démocrate tente le tout pour le tout. Au sein du Bundestag, ce mardi, Olaf Scholz contre-attaque. Oui, les temps sont difficiles pour l'Allemagne, mais la faute en revient à Vladimir Poutine. C'est lui qui a lancé la guerre en Ukraine et saper les bases de l'économie allemande, explique le chancelier, en réponse à tous ceux qui, à droite, pointent son mauvais travail depuis plus de 3 ans. Olaf Scholz joue aussi la carte de la sécurité. Avec lui, le centre démocratique restera fort et de critiquer les chrétiens démocrates qui flirtent avec l'extrême droite par peur, je cite, de faire des compromis avec les partis du centre. Plutôt à l'aise dans les campagnes électorales et en mode attaque, Olaf Scholz semble toutefois à court d'arguments pour renverser la tendance. Même s'il le rappelle, rien n'est jamais perdu. En 2021, il avait surpris tout le monde par une remontada de dernière minute et une victoire à l'arrivée. Un scénario qui semble cette fois mal engagé. Berlin, Delphine Nerbollier pour Radio Vatican.
Direction maintenant la Syrie où, 2 mois après la chute du régime de Bachar al-Assad, les combats continuent aux alentours du barrage de Tishrin entre les factions pro-Turquie de l'armée nationale syrienne, nouvellement intégrée à l'armée nationale syrienne, et les groupes armés kurdes. Manbij, dernière ville avant la ligne de front, est de plus en plus en proie à l'insécurité. Les attentats à la voiture piégée se multiplient, rappelant les pires heures de l'histoire de la ville du temps de l'État islamique. Reportage de Nécial Manon Chaplin.
L'explosion a eu lieu un matin, 6h30, le 4 janvier dernier. Ce jour-là, Dalal prend la route avec une vingtaine d'autres agricultrices, direction les champs d'oliviers dans lesquels elle travaille. Une voiture piégée garée sur le bord de la route explose sur leur passage. Un attentat de plus à Manbij qui fera au total 11 victimes, dont Dalal. Nedwa, sa tante, est encore sous le choc.
C'était la panique. Tout le monde courait dans tous les sens. On ramenait des blessés et des morts, encore et encore.
Toutes les victimes de cet attentat vivaient dans le camp de déplacés de Al-Ras Magdar, en périphérie. Les blessés ont été placés sous les tentes, comme Fauza. Elle est couchée sur un matelas à même le sol. Son visage est grièvement blessé, ses yeux boursouflés, ses bras tuméfiés.
Même quand je pouvais travailler, j'avais à peine de quoi m'acheter du pain. Désormais, je n'ai pas de quoi m'acheter des médicaments. J'ai mal et je n'ai plus d'antidouleur. Que Dieu soit avec moi.
Ces dernières semaines, les attentats à la voiture piégée se sont multipliés, 6 en 2 mois, provoquant la mort de 26 personnes, rapporte Abou Aymad, responsable de la sécurité générale à Manbij.
Nous avons établi un plan pour sécuriser la zone, renforcer les checkpoints et les points de contrôle. Nous avons également mis en place des patrouilles qui circulent dans la ville jour et nuit, ainsi qu'une équipe de techniciens qui s'occupe de faire des contrôles sur les voitures suspectes.
Selon les services de renseignement du gouvernement, le PKK, groupe armé kurde, serait impliqué. 4 voitures chargées d'explosifs circuleraient encore dans la ville. À Manbij, Manon Chaplin pour Radio Vatican.
Oui, à la reconstruction de Gaza, mais sans déplacer les Palestiniens. Le président égyptien Al-Sisi est revenu sur la prise de possession de Donald, la prise de position de Donald Trump concernant le territoire palestinien. Pour Al-Sisi, la création d'un État palestinien est la seule garantie de parvenir à une paix durable. La République démocratique du Congo en proie aux groupes armés, tout d'abord donc au sud Kivu, l'accalmie de ces derniers jours jour s'est achevé. De nouveaux affrontements ont eu lieu aujourd'hui entre le M23 et l'armée congolaise. Et puis, plus au nord, en Ituri, cette fois c'est la milice Kodeko qui est l'auteur du massacre hier de 51 personnes, en majorité des civils déplacés. Bilan provisoire, préviennent les autorités locales, une quarantaine de cases ont été incendiées. Voilà, c'est la fin de cette édition. Prochain retour de l'actualité en langue française, ce sera demain matin à 8h30, heure de Rome. D'ici là, très bonne soirée à toutes et à tous.